Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Le seul balado sceptique enregistré en français et au Japon. Épisode 9, pour le samedi 8 août 2009, la mémétique. Dans cet épisode, j'interview Charles Mougel, qui est membre de la Société francophone de mémétique, et je vais lui demander de nous expliquer ce qu'est la mémétique. En tant que sceptique, je suis particulièrement sensible aux critiques qui sont faites à la psychologie évolutionniste en général, et à la mémétique en particulier, la mémétique étant une sous-catégorie de la psychologie évolutionniste. Une de ces critiques est que la mémétique échoue à prédire les phénomènes culturels. Or, en science, la capacité à prédire, le pouvoir prédictif d'une théorie, est extrêmement important. Je poserai aussi cette question à notre invité. Néanmoins, il existe de nombreux points de rencontre entre le scepticisme scientifique et la mémétique. Le premier étant le créateur du concept de mème, Richard Dawkins, qui est un grand spécialiste de la théorie de l'évolution et un athée. Son ouvrage « The God Delusion » est un best-seller. Il a été traduit en français sous le titre « Pour en finir avec Dieu » et je vous en conseille vivement la lecture. C'est néanmoins dans son ouvrage de 1976 « The Selfish Gene » en français « Le gène égoïste » que Richard Dawkins formula le concept de « mème ». Concept qui généra par la suite la mémétique. Le second est Suzanne Blackmore, qui a été une parapsychologue. Elle est détentrice d'une thèse de doctorat en parapsychologie, ce qui est extrêmement rare. Et puis, après avoir réalisé cette thèse de doctorat, en évaluant l'état de la littérature, elle est devenue sceptique et elle a réorienté sa carrière vers le débat sur la conscience et la mémétique. Donc ces deux auteurs, Richard Dawkins et Suzanne Blackmore, sont des figures proéminentes du mouvement sceptique contemporain et de l'athéisme. Et pour cette raison, je pense qu'il est extrêmement intéressant de parler aussi de mémétique sur ce balado. Passons maintenant à l'interview. Qu'est-ce que la mémétique ?
La mémétique se rapproche de la génétique dans son essence. C'est-à-dire que on va y parler un peu de système écologique, d'écosystème, on va y parler d'organisme, on va y parler d'énergie, d'équilibre, de sélection, etc. qui m'amène au centre de ce qui définit la mémétique, c'est-à-dire la théorie de l'évolution. Donc là, on est en train de fêter Darwin, le double anniversaire Darwin, et on est en plein dedans. C'est-à-dire que on parle de la théorie de l'évolution, mais on l'applique non pas à des organismes vivants, mais à des faits culturels, à des entités culturelles, c'est-à-dire des savoirs, des idées, des pratiques, des choses comme ça.
Si je t'ai invité en fait sur ce balado, c'est parce qu'il y a à mes yeux en fait des liens relativement évidents, en tout cas historiques entre le scepticisme et la mémétique. Par exemple, évidemment Richard Dawkins, qui est maintenant très connu pour être un athée et qui est le créateur du concept de mème. La mémétique s'intéresse par exemple aux phénomènes religieux. Est-ce que tu penses que la mémétique est un outil intéressant pour appréhender le phénomène religieux?
Je pense qu'effectivement la mémétique est intéressante à partir du moment où on parle de représentation du monde, de croyances, et tout particulièrement lorsque ces croyances ou ces représentations du monde commencent à être partagées, à être dupliquées, à être enseignées, etc. Et donc effectivement la religion fait partie de cela. Mais on peut aussi dire que la science utilise la science ou la politique ou pas mal de choses culturelles utilisent les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que face au réel, on se fabrique certaines explications Et ensuite, on y croit, on n'y croit pas, on propage les explications qu'on a trouvées dans son coin, et finalement, on fait des groupes. D'un côté, tous ceux qui croient que c'est parce que ceci, d'un autre côté, tous ceux qui croient que c'est parce que cela, etc. Et on a également des dynamiques de groupes qui sont très, très importantes. On le voit bien sûr avec les guerres de religion, mais on le retrouve avec les guerres idéologiques dans tous les débats, il suffit de parler de politique, de religion dans un repas, quel qu'il soit, pour que souvent ça déborde. On sent qu'il y a là on touche là quelque chose qui est très profond au niveau de l'humain, qui est ancré dans l'humain parce qu'on est construit là-dessus. Et c'est vrai que dès qu'on touche à notre représentation du monde, on a tendance soit à se défendre pour garder notre équilibre interne, c'est-à-dire que même si on nous apporte des arguments dans tel ou tel sens, pour ne pas être chamboulé, on va préférer les ignorer. Et en même temps, on a envie quelque part de conquérir l'autre, c'est-à-dire de le convaincre, de lui dire « mais tu devrais penser comme moi, c'est si magnifique, etc. » Et voilà.
Ça se rapproche du concept de dissonance cognitive en psychologie, il me semble.
Exactement, oui.
Et donc, la mimétique tend à dire qu'on a une tendance spontanée à essayer de convertir l'autre à notre position ou à essayer de le convaincre.
Alors, en fait, cette phrase-là, elle peut être dite de deux manières. Elle peut être dite de la manière humano-centrée, c'est-à-dire si on se centre sur l'humain et qu'on est sujet, on va dire effectivement que nous avons tendance à vouloir convaincre, nous avons tendance à vouloir nous consolider et chercher à ne pas nous mettre dans des sales situations, par exemple de dissonance cognitive. Ou alors on peut aussi prendre, c'est là que ça devient intéressant, un point de vue qui ne touche pas à l'humain en tant que centre, qui va dire... Si on disait que c'était les éléments culturels qui avaient une tendance naturelle à se reproduire, qu'est-ce qui se passerait? Et toute la même éthique tient là. C'est-à-dire, à partir de quel moment cette tendance à la réplication va être freinée, va être coupée? À partir de quel moment on va devoir choisir entre la tendance à la réplication de la religion machin ou de la religion truc ou de l'athéisme, etc. Il va y avoir des phénomènes de sélection. À partir de quel moment est-ce que dans la duplication, il va y avoir évolution? Quand est-ce que c'est le syndrome du téléphone arabe? À partir du moment où on a un message qui se déforme, et là on le voit bien dans le domaine des légendes ou autres, c'est qu'on est dans une tradition qui est souvent orale, et qu'il y a réplication du même message, mais à force d'être répliqué, il y a des variantes qui apparaissent, différentes variantes, et ces différentes variantes vont un jour se retrouver en compétition.
Moi, je m'intéresse évidemment au phénomène Fortéen, donc un peu, tu sais, le monstre du Loch Ness, les observations d'OVNI. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que les témoins, enfin, bien entendu, ils peuvent observer quelque chose, un stimuli prosaïque, mais ils ont spontanément l'envie de répéter la légende ou de la propager, enfin, est-ce que tu as une réflexion à ce sujet?
Bien sûr, il y a déjà tout d'abord un mécanisme très important qui est le mécanisme de la socialisation, de l'appartenance à un groupe. Et juste derrière ça, il y a la reconnaissance des pairs. Et depuis la nuit des temps, le phénomène de raconter une histoire, avoir quelque chose à raconter, quelque chose d'intéressant à raconter, de nouveau, voire de merveilleux, de motivant, etc., fait que la personne qui tient le crachoir et qui va pouvoir dire des choses intéressantes va être valorisée, on va l'encourager à continuer, etc. Pour prendre l'exemple de l'humour, on le voit très bien, quelqu'un qui va sortir toujours des blagues pourries, on va le rembarrer, on va lui dire « bon, ça y est, écrase-toi dans ton coin ». Et à l'inverse, celui qui va toujours avoir le bon mot, le bon truc, il va être un petit peu poussé en avant, et parfois même malgré lui, c'est-à-dire qu'à force, il va devoir, pour coller à l'étiquette qu'on lui donne de celui qui a toujours le bon mot dans les soirées, eh ben, il va devoir, quelque part, faire des efforts et se forcer un petit peu, et c'est ça qui va faire que, par entraînement, il va favoriser ce type d'intervention. À tel point que parfois, il y a des personnes qui n'arrivent plus à être sérieuses parce qu'elles sont tellement étiquetées en tant que la personne drôle du groupe qu'elles ne peuvent plus dire des choses sérieuses.
On pourrait dire que, par exemple, les gens qui rapportent des légendes ou du folklore, des histoires qui leur sont arrivées, c'est aussi par désir ou parce qu'ils ont la volonté de rentrer dans un groupe ou de...
Oui, ou d'avoir quelque chose à dire. Il suffit de s'observer nous-mêmes et notre entourage pendant une semaine ou un petit peu plus des fois, ça dépend des interactions qu'on a, et d'observer les réactions par rapport à ce qui nous entoure et qu'est-ce qu'on raconte. Par exemple, je suis en week-end, je reviens le lundi au boulot, qu'est-ce que je raconte de mon week-end ? Alors soit je raconte rien et puis il y a personne et puis voilà. Ou alors je raconte telle chose, telle anecdote et à ce moment-là on se rend compte que les anecdotes, eh ben, elles survivent beaucoup plus, elles se répandent beaucoup plus. Les choses rares ont tendance à se dupliquer beaucoup plus parce que justement elles sont rares, donc elles constituent quelque part une information. Par exemple, en France, ça a été le malaise de Nicolas Sarkozy il y a quelques jours.
Ah oui,
ça fond un pas possible. Et c'était même pas la peine de demander à quelqu'un dans la rue de dire t'es au courant ou d'essayer de faire celui qui savait pour lui d'apporter l'information. L'information était déjà arrivée. Par tous les recoins, que ça soit les médias, le bouche à oreille, etc., tout le monde savait ce qui s'était passé. Alors que finalement, c'était un événement pas très important et disons pas si rare que ça. Donc pour revenir sur les histoires de monstres, de phénomènes un petit peu fantastiques, c'est sûr que dès qu'on est confronté à des expériences personnelles qui nous paraissent rares et inexplicables, etc., soit on le garde pour soi en se disant ils vont me prendre pour un fou, j'en parle pas, etc., ou alors j'en parle que dans certains contextes avec certaines personnes. Ou alors, effectivement, on en parle pour faire l'intéressant ou pour faire celui qui a vu quelque chose, etc.
Une des questions que je voudrais vraiment te poser, c'est un peu sur la question de la scientificité, de la mémétique, parce que dans la littérature sceptique, ça revient souvent. On reproche un peu à la mémétique de manquer de pouvoir prédictif, d'être une théorie qui explique a posteriori les phénomènes sociaux, mais qui n'arrive pas encore à prédire quels sont les mèmes qui vont être propagés dans la culture. Enfin, c'est vraiment un reproche courant dans la littérature. Qu'est-ce que tu réponds à ça en général?
Alors j'ai effectivement mon avis sur la question. Le premier, c'est déjà que la mémétique est un grand chantier, disons-le. C'est pas quelque chose de fini, il n'y a pas une bible de mémétique qui existe quelque part. Quand on discute entre personnes intéressées par la mémétique, soit intéressées de loin ou alors qui consacrent un peu de temps, on n'est pas toujours d'accord, on commence à l'être petit à petit sur certains sujets, mais c'est un grand chantier, c'est sûr, c'est un premier point. Ensuite, sur le côté « ça n'apporte rien de prédictif », je pense que tout dépend du type de personne qui dit ça. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est habitué à la science, côté maths, physique, un petit peu science dure, etc., effectivement, il va avoir un manque parce que il n'y a pas grand-chose de reproductible. D'ailleurs, c'est difficile de faire des expériences étant donné qu'on touche à l'humain. C'est un peu comme en sociologie. Et surtout, on est plus proche, selon moi, de la biologie que d'une régularité des sciences physiques. Et c'est, à mon avis, une des grosses explications à ces opposants, entre guillemets, c'est que la mémétique, comme la biologie, comme la génétique, est au départ une manipulation de concepts à comprendre, une notion d'équilibre, d'interaction, de système en interaction qu'on retrouve avec la thermodynamique en physique, des choses comme ça. Et il y a effectivement dans ce domaine pas toujours beaucoup de prédictions, étant donné qu'on a une grosse sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que comme la météo, les météorologues rencontrent des problèmes pour des prédictions, ils font des prédictions qui sont de mieux en mieux, mais ils ont toujours des problèmes et ils en auront toujours. La simple raison est la suivante, c'est que on manque d'informations. Et ce manque d'informations-là, qui est difficile à avoir pour mesurer la température sur toute la planète, elle est encore plus difficile à avoir lorsqu'il s'agit de mesurer ce qui se passe dans les têtes, dans les cerveaux de tout le monde en même temps. Et c'est là où c'est difficile, c'est que au départ, les concepts de base sont simples, s'énoncent assez clairement. La théorie de la sélection, etc., se comprend bien dans le domaine culturel lorsqu'on l'a comprise dans le domaine biologique. Mais au niveau d'avoir des informations, c'est difficile. On a quelques pistes de nos jours avec le déploiement d'Internet et le fait qu'on vive de plus en plus sur Internet fait qu'on met de plus en plus de choses de notre plein gré manière accessible. Donc effectivement, il y en a qui ne se gênent pas pour faire des études ou faire des applications sur des éléments culturels au niveau des foules.
Récemment, j'avais un invité qui parlait des agroglyphes, donc des cercles dans les blés, des crop circles. On a évoqué la répétition un peu des légendes folkloriques, mais est-ce que la répétition des mèmes se fait principalement oralement ou par écrit via Internet? Ou bien est-ce qu'on peut l'étendre à l'attitude de quelqu'un qui va voir un agroglyphe et avoir envie spontanément de répéter, de recréer un agroglyphe dans le champ à côté, enfin de répéter ce que le premier faiseur a fait, une action qui répète un pattern, qui soit pas oral ou écrit?
Bien sûr. Lorsqu'on dit que la mémétique s'intéresse au culturel en général, ça n'est pas forcément le médiatique. C'est-à-dire que on peut passer dans des comportements complexes et dans des créations, dans des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu poses la question au niveau des agroglyphes et immédiatement, en tant que méméticien, on se dit les mécanismes qui sont en œuvre, on les retrouve forcément ailleurs. Et par exemple, moi, je pense immédiatement à faire des tableaux de peinture, par exemple. Mmh. Il y a une certaine similarité. Qu'est-ce qui nous pousse finalement à dessiner, à prendre de la peinture, à mettre sur une toile? Ben, quelque part, c'est pour produire en nous une certaine émotion, l'impression d'avoir fait quelque chose de beau, de bien, etc., ou de nouveau, tout ce que peut ressentir un créateur lorsqu'il fait une œuvre, et en même temps, l'idée qu'on va peut-être propager cette émotion ou une autre, qu'on va provoquer quelque chose chez les autres, et c'est bien sûr pour cela que les agroglyphes sont dans des zones qui sont visibles, parce que il y a le fait de se dire « je l'ai fait » et en même temps le fait de se dire « je vais le montrer aux autres ». On le voit bien également dans le domaine des vidéos partagées sur Internet. C'est-à-dire que par un temps, les jeunes, quand ils faisaient quelque chose, ça peut être une figure avec des rollers ou je ne sais quoi, ils font quelque chose, quelque part, si les copains sont là dans le coin, c'est mieux. Parce qu'ils voient ce que j'ai fait, ils voient ce que je suis capable de faire. Et là, avec le phénomène d'Internet, c'est encore plus propagé parce qu'effectivement, on va avoir tendance à amplifier le phénomène pour, même le jour où on n'a pas de public, enregistrer, filmer pour justement partager. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. On pourrait très bien discuter dans notre coin et se dire, voilà, on a discuté, c'est bien. Ben non. Tu as émis le souhait d'enregistrer et de propager ça à des auditeurs qui te suivent, etc. C'est dans tous ces mécanismes-là qu'il faut étudier avec finesse, et c'est là où effectivement l'étude avec finesse et en profondeur est difficile, parce que cela demande du temps, des compétences. Et si on veut aller dans le cerveau pour savoir quels sont exactement les mécanismes de récompense qui font que quand on est enregistré, on réagit pas de la même manière. Quand on va faire un agroglyphe qui tombe à l'eau parce que je ne sais quoi, il y a une brosse de vent qui a tout emporté, je ne sais pas. Tous ces phénomènes-là sont à la fois soit intimes au niveau de la conscience personnelle, donc ça demande une certaine introspection personnelle pour les analyser, soit au niveau biochimique dans le cerveau, etc. Donc ça demande des outils qui sont pas à la portée de tout le monde et puis qui sont surtout qui font appel à des concepts qui sont pas non plus accessibles facilement. Et à l'inverse, on doit toucher également tout ce qui est psychologie, sociologie, voire parfois géopolitique ou des choses comme ça. Donc ça touche un petit peu tous les niveaux. de la connaissance au niveau des interactions humaines, mais en se concentrant sur l'entité culturelle. C'est-à-dire que là, si on se décide à un moment donné de se dire « Tiens, j'étudie les agroglyphes en utilisant des méthodes méméticiennes », ben, ça serait par exemple « Tiens, observons quand est-ce qu'il va se propager d'une personne à une autre. Est-ce que les personnes qui ne connaissent pas du tout le principe, qui n'en ont jamais entendu parler, vont être tentées de le faire ou pas ? Est-ce que c'est pas plus facile de le faire quand on en a déjà entendu parler ?» Toutes des choses comme ça, mais centrées sur l'élément. Mais en observant vraiment tous les passages, c'est-à-dire autant au niveau, quand il y a l'agroglyphe, qu'on le voit, n'importe qui le voit, et qui est proche, qui le voit par surprise, par exemple l'agriculteur qui le découvre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête au moment où il le voit. Ensuite, si jamais il y a un journaliste qui entend parler qu'il y a un agroglyphe, est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va pas venir? Est-ce qu'il va choisir de couvrir ça plutôt que de couvrir autre chose? Pareil au niveau du rédacteur en chef. Ensuite, du spectateur ou de l'auditeur qui entend parler de ça. Est-ce qu'il va déployer de l'énergie et de son temps personnel pour aller sur place, pour aller le voir ou pas? Est-ce qu'il va en parler à ses amis ou pas? Etc.
J'ai découvert un peu la mémétique via Suzanne Blackmore, qui est aussi liée au scepticisme parce qu'elle était parapsychologue avant de se réorienter dans la mémétique et le débat sur la conscience. Dans ses ouvrages, elle défend l'idée que le soi n'existe pas, hein, que notre identité est une sorte d'illusion, quoi. Comme elle le dit, qu'on est des machines à générer des mèmes, quoi, mêmes machines. Est-ce que tu penses que l'idée que le soi est une illusion est une conséquence logique de la mémétique? Est-ce que tu adoptes cette idée ou bien est-ce que c'est plutôt propre à Suzanne Blackmore?
Alors, lorsqu'on commence à distinguer nos idées, nos croyances, nos habitudes de nous-mêmes, effectivement, on se détache progressivement de ce qu'on définit comme étant soi habituellement. Lorsqu'on dit « Qui es-tu ?», on va répondre aux questions d'une manière assez habituelle. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont finalement culturelles. Et le fait, en mémétique, de détacher un peu les choses, se fait que finalement, oui, on s'interroge sur finalement qui je suis, de la même manière qu'on s'interroge lorsqu'on étudie la biologie et que on dépece tout, qu'on voit des tas de cellules qui vivent entre elles, de même au niveau du cerveau, les neurones qui se connectent, qui échangent des informations, etc., qui interagissent. Et puis, à chaque fois qu'on découpe tout ça et qu'on comprend comment ça interagit un petit peu, on est confronté au phénomène de l'émergence. On se dit, mais finalement, nous, on est où? La conscience, le tout ça, c'est quoi? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si on existe, si ce sentiment de moi est une illusion qui permet de mieux vivre, si c'est quelque chose qui est émergent et qui fait qu'effectivement l'organisme qui est la somme des cellules est plus qu'une somme de cellules, en général c'est le cas, ça amène effectivement à se questionner sur tous les sujets là.
Pour terminer, comment est-ce que quelqu'un devient un méméticien?
Alors en général, les gens deviennent méméticiens en le disant. Ça commence par ça. Il n'y a pas encore de voix, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord être curieux. Il faut avoir un sentiment donc, qui va avec, c'est-à-dire un esprit ouvert et souvent pluridisciplinaire. C'est-à-dire que on trouve souvent des personnes qui sont spécialistes dans tel ou tel domaine, mais qui se sont intéressées à plusieurs sujets à droite à gauche et qui restent ouvertes. Ouverte autant d'esprit qu'au niveau culturel général scientifique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de profil type.
Si les auditeurs veulent en savoir plus sur la mémétique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ils peuvent aller sur le site mémétique.org. Ils peuvent également se procurer l'ouvrage de Pascal Joustel, Comment les systèmes pondent, qui est une très bonne étude sur justement tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en mémétique à droite à gauche. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait être fait à l'avenir? Et je les encourage aussi à passer sur le forum et à poser leurs questions, donner leur avis, apporter leur point de vue.
Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, nous discuterons avec Dorian Nerdal des Anges de Mons. C'était Scepticisme scientifique. le balado de la science et de la raison. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à consulter le blog Scepticisme Scientifique, à me suivre sur Twitter ou à nous rejoindre sur la page des fans du balado sur Facebook. À la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, Sceptiquement Vous.